Et on commence avec cette publication hier dans la revue Science de la suite des analyses de l'expédition Tara Océan. Nous avons découvert 5000 nouveaux virus marins.
Oui, c'est la plus grande enquête jamais menée sur les virus océaniques. Entre 2009 et 2013, l'expédition Tara Océan a échantillonné les eaux de tous les océans du monde, jusqu'aux mers arctiques. Une partie de ces prélèvements ont été envoyés au Génoscope à Évry, où les équipes, depuis 9 ans, séquencent l'ADN total de ces échantillons. Cette étude met en lumière un monde très important au niveau du vivant, qui est le virus ARN, c'est-à-dire les virus dont l'information génétique est portée par une molécule d'ARN et non pas une molécule d'ADN. Ce sont des virus qu'on ne connaît pas bien, et on s'y intéresse d'autant plus qu'on pense que les premières molécules qui portaient l'information génétique étaient des molécules d'ARN. Ces virus sont donc un peu les témoins des premiers âges de l'évolution. Aujourd'hui, ces organismes tiennent un rôle important dans la dynamique océanique et notamment sur la séquestration du carbone. Éric Pelletier est directeur de recherche au CEA, au Génoscope. Il travaille sur le projet Tara Océan depuis 11 ans.
On a commencé à s'intéresser aux organismes entre guillemets classiques, hein, les protistes, les bactéries, les archées, les virus à ADN. Donc on a séparé déjà par taille les organismes. Et là, dernièrement, on s'est intéressé à ces virus ARN pour lesquels on n'a pas l'échantillon. En soi, on n'a pas récolté les particules de virus avec de l'ARN dedans. Par contre, ces virus, ils infectent des cellules eucaryotes, souvent. Et quand ils infectent ces cellules, on trouve de l'ADN de ces virus dans les cellules. Donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé à découvrir d'abord quelles sont les traces des virus ARN qu'on trouve dans les cellules. On n'avait pas une vision de ce qui se passait dans l'océan. Et là, la grosse surprise, ça a été que on a défini une grande diversité de familles de virus ARN dans les échantillons issus du projet Tara. Tous les virus ont un impact dans la séquestration du carbone parce qu'il y a une énorme dynamique au niveau de l'océan. Les virus, en général, infectent beaucoup de cellules planctoniques, que ce soit des bactéries, des eucaryotes. Et en gros, on estime aujourd'hui qu'un tiers des cellules planctoniques sont renouvelées chaque jour dans l'océan du fait de l'activité des virus. Le fait qu'ils détruisent des cellules en permanence, ça a un impact sur la libération des composés carbonés dans l'océan et dans la mort des organismes. Donc une partie des organismes qui meurent vont couler et vont séquestrer du carbone. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est on a découvert que les virus ARN peuvent transporter des gènes eucaryotes. Ils peuvent propager des gènes d'une espèce à une autre. Et parmi les gènes qu'on a découverts qui peuvent être portés par ces virus, il y a notamment des gènes qui ont des fonctions biologiques pour les bactéries ou pour les eucaryotes, et notamment des gènes impliqués dans la photosynthèse ou dans le métabolisme de différents composés. Donc, une cellule qui va être infectée par un virus, ADN ou ARN, peut se voir en un sens reprogrammée pour certaines activités. Ça impacte notamment le processus du carbone par les organismes de l'océan. Il y a une grande quantité de CO2 atmosphérique qui est processée par les organismes marins et qui, pour une partie, va être séquestrée dans les fonds marins. Et le carbone qui est séquestré là, l'est pour de très longues durées. Et le rôle des virus dans cette dynamique-là est important et assez peu connu encore aujourd'hui.
Voilà, et si vous voulez retrouver cette étude et plus de détails sur cette expédition Tara Océan, vous pouvez bien sûr vous connecter à notre compte Twitter @laméthodefc, des informations que vous retrouverez sur le site de l'émission également sur franceculture.fr. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude sortie des laboratoires français, étude parue dans la revue Nature Astronomy, qui apporte un nouveau modèle climatique à Saturne.
Une équipe française a voulu aller plus loin que les observations actuelles de l'atmosphère de Saturne. Il faut savoir que ce qu'on observe de cette planète, depuis la Terre, c'est la couche supérieure de nuages et leurs mouvements, ce qui nous permet de déterminer les régimes de vent. Mais au-dessus, dans la stratosphère, c'est plus difficile et la dynamique de cette région reste mal connue. Donc pour avoir une idée de ce qui se passe dans cette région, cette équipe s'est appuyée sur les observations depuis le sol terrestre, depuis l'orbite terrestre et grâce aux données de la sonde Cassini. Les chercheurs ont ainsi pu suivre les évolutions thermiques et chimiques dans une grande partie de son atmosphère et ils ont utilisé un nouveau modèle climatique. Selon leurs résultats, la Terre et Saturne sont des planètes très différentes et pourtant, la dynamique de leur haute atmosphère est très similaire. Déborah Bardet est postdoctorante au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Elle est l'autrice principale de cette étude.
On s'est rendu compte que, notamment au niveau de l'équateur de Saturne, il y avait une oscillation de température dans la stratosphère de Saturne, dans la partie supérieure de l'atmosphère de Saturne. Et donc une oscillation thermique, qu'est-ce que c'est? C'est juste un empilement d'anomalies chaudes et froides en température qui, au cours du temps, descendent progressivement vers les plus basses couches de l'atmosphère. ce genre de comportement, on le voit aussi également dans la stratosphère de la Terre. Et on sait aussi que ces oscillations thermiques sont associées à des oscillations de vent. Et donc, ce qu'on voit, c'est que grâce à notre modèle, qui est assez récent, on arrive à reproduire quelque chose de semblable aux observations en termes d'oscillations thermiques. Et on arrive également à avoir une oscillation de vent associée à cette oscillation thermique.
Donc la Terre et Saturne sont très différentes, et pourtant...
Et pourtant, on arrive à montrer grâce à ce modèle que le forçage de cette oscillation équatoriale thermique et de vent semble très similaire au forçage d'oscillation thermique et de vent dans la stratosphère de Saturne, qui est du coup relié au cycle saisonnier de la planète. Donc la Terre est inclinée par rapport à l'axe vertical, ce qui lui confère des saisons. Et en fait, sur Saturne, il y a également une inclinaison à peu près du même ordre de grandeur en termes de degrés. Et donc, ça lui confère également des saisons très marquées, très similaires sur ce qu'on connaît sur Terre. Et ces saisons, en fait, permettent de développer une circulation entre l'hémisphère d'hiver et l'hémisphère d'été, qui donc se renverse au changement de saison entre l'été et l'hiver. Et donc, à chaque changement de saison, vous allez avoir un changement de phase de vent de l'oscillation équatoriale. Et au cours du temps, chaque phase de vent va descendre vers les plus basses couches de l'atmosphère. Et c'est très similaire à ce que l'on observe sur la Terre. Cette circulation de grande échelle entre l'hémisphère d'hiver et l'hémisphère d'été est appelée la circulation de Brewer-Dobson sur Terre. Et l'oscillation équatoriale qui est forcée par cette circulation de Brewer-Dobson sur Terre est appelée l'oscillation semi-annuelle.
Également dans l'actualité scientifique cette semaine, Natacha, en ultra bref.
Cette semaine, une équipe japonaise a fabriqué un doigt robotique recouvert d'une peau de synthèse créée à partir de cellules humaines. Une peau moite et qui peut cicatriser. Pour cette prouesse technique, ce doigt robotique a baigné dans une solution de collagène et de fibroblastes dermiques. La peau s'est ensuite formée autour. Le doigt pouvait se plier et se déplier et provoquer de petites rides, comme sur nos mains. Cette même équipe travaille aussi sur un visage robotique recouvert d'une vraie peau. Cette semaine, on découvre que si les chiens sont des animaux particulièrement sociaux, c'est peut-être grâce à deux mutations génétiques. Après avoir séquencé l'ADN de plus de 600 chiens, une équipe japonaise a découvert deux mutations dans un gène lié à la réponse au stress. Selon les auteurs, les capacités cognitives sociales des chiens ont été acquises à la suite de ces mutations, ce qui aurait ainsi réduit leur peur et leur agressivité. Et enfin cette semaine, on sait précisément quand a eu lieu la domestication des poulets, mais on ne comprend pas bien pourquoi. De nouvelles datations carbone de 23 zoos en Europe et dans le nord de l'Afrique suggèrent que leur élevage est plus jeune que nous ne le pensions, mais les motivations ne sont pas claires, car ils ne semblent pas avoir été élevés pour leur viande. Peut-être étaient-ils utilisés comme système d'alarme, comme les oies, et des sépultures d'humains enterrées avec des poulets en Grande-Bretagne il y a 2000 ans suggèrent que ces oiseaux étaient peut-être considérés comme des guides spirituels pour l'au-delà.
Et comme chaque vendredi, nous terminons ce journal par notre rubrique de sciences improbables. Aujourd'hui, Natacha, une question mathématique qui enflamme la plateforme Reddit.
Si nous pouvions faire une boulette de viande avec tous les êtres humains de la planète, quelle taille aurait cette boulette ? C'est un mathématicien qui a lancé ce défi et les utilisateurs de Reddit ont sorti leur calculette. Alors la densité moyenne d'une personne est de 985 kg par mètre cube, d'une masse moyenne de 62 kg. Donc mixés ensemble, il serait alors possible de faire tenir 16 humains dans un mètre cube. Donc si vous mettez 7,88 milliards d'êtres humains dans un mixeur, vous obtiendrez une boulette de 496 millions de mètres cubes, soit une boulette de viande d'environ 1 km de diamètre. C'est aussi haut que 3 tours Eiffel.